Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Le plan social d'urgence d'Emmanuel Macron est soumis au Conseil des ministres ce matin. Le gouvernement s'active pour que les mesures pour le pouvoir d'achat soient après... Dès demain, soumise aux députés, au Parlement. Vous, les députés RN, vous les voterez, ces mesures, toutes ces mesures ?
Oui, on les votera en les trouvant évidemment pas à la hauteur. Notamment, vous voyez, on proposera la suppression de la hausse de la CSG pour l'intégralité des retraités. Mais d'abord, on va mettre beaucoup d'énergie et essayer de comprendre où on en est. Hein, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce gouvernement d'experts et d'économistes qu'on nous avait vendu fait preuve d'un amateurisme absolument total. On annonce des mesures et puis on les retire. Puis on annonce qu'elles sont rétablies et ce, à peu près dans l'intégralité des domaines.
Bon. Vous l'expliquez comment ?
Ben, je l'explique par leur amateurisme, par le fait qu'ils n'ont aucune vision globale, parce qu'en réalité, ils savent pas où ils vont. Ils réagissent à une actualité, mais ils n'ont pas une idée précise de là où ils veulent mener le pays. Et donc, ils sont évidemment gênés aux entournures, d'autant que l'Union européenne, évidemment, et la Commission effectuent sur eux une pression qui est une pression considérable.
Or, Emmanuel Macron a décidé de laisser filer le déficit. Ça,
mais avec l'autorisation.
Que vous devez approuver. Non, mais
avec l'autorisation de la Commission, mais enfin, il faut quand même savoir, et on aura l'occasion d'en reparler en 2019, que toutes les préconisations qui sont effectuées par l'Union européenne sont suivies à la lettre par Emmanuel Macron. Et c'est évident que c'est ça qui le pousse d'ailleurs à dire qu'il ne déviera pas de sa route, et notamment, dès l'année prochaine, nous aurons la réforme sur l'indemnisation du chômage, et suivra la réforme sur la retraite, qui vont être des débats intéressant parce que évidemment il ne vise pas à augmenter la protection ni la retraite mais à les baisser. Hein.
Il va pouvoir, c'est une question. Il va pouvoir continuer à réformer comme il l'entendait. Vous pensez que le mandat d'Emmanuel Macron à ce stade est freiné, voire stoppé, comme le disent certains?
Moi, je pense qu'il aura les plus grandes difficultés à mettre en place les mesures antisociales qui sont exigées de lui par l'Union européenne et d'ailleurs
vous êtes déjà en campagne,
qu'il accompagne. Mais il n'en demeure pas moins qu'il souhaite le faire, parce qu'en fait, il a été mis à cette place précisément
donc
pour
vous
ça.
Vous pensez qu'il va le faire ? Que malgré la crise des Gilets jaunes, qui a porté un coup quand même à sa méthode, il l'a reconnu lui-même, il a fait son mea culpa, vous pensez qu'il va y aller quand même ?
Oui.
De la même façon ? Oui.
Probablement, car il ne sait pas faire autrement, en réalité.
On revient quelques instants sur les mesures, vous voterez demain, dites-vous, hausse pour les salariés au SMIC, annulation de la hausse de la CSG, défiscalisation des heures supplémentaires, ça c'est quelque chose que vous-même preniez, défiscalisation de la prime de fin d'année, annulation des taxes de carburant, plus de 10 milliards d'euros, vous dites c'est insuffisant.
Bien sûr, c'est insuffisant. Enfin, 10 milliards d'euros.
10 milliards d'euros.
Non, mais d'accord, 10 milliards d'euros, c'est la moitié du CICE. Enfin, c'est la moitié des cadeaux monstrueux qu'on a fait aux grandes entreprises, auxquelles on n'a même pas exigé en contrepartie qu'elles créent de l'emploi ou qu'elles le maintiennent. Donc, il y a quand même de l'argent.
Vous auriez raboté le CICE ?
Non, mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans l'immigration, il y a de l'argent
dans les entreprises.
Non, mais il y a de l'argent aussi dans la contribution nette à l'Union européenne, qu'on vient d'augmenter d'un milliard et demi et qu'on va augmenter encore l'année prochaine d'un milliard et demi. Il y a de l'argent dans la fraude sociale contre laquelle on ne lutte pas. Il y a de l'argent dans la fraude sociale. Il y a de l'argent dans la taxation des GAFA qu'on ne met pas en œuvre. Enfin, voilà, tout est un problème, si vous voulez, de manière dont on dépense l'argent. Et c'est un vrai sujet de fond, car les Gilets jaunes, ils ont exprimé... en réalité, qu'il n'était pas consentant à l'impôt, pas seulement au niveau de l'impôt, pas seulement à la manière dont il était décidé, mais aussi à la manière dont il était dépensé. Et c'est tout ce sujet-là qui, à mon avis, va cadencer les années du quinquennat qui reste.
Mais vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, oui. Marine Le Pen, sans pour autant avoir revêtu la chasuble, mais vous l'avez toujours soutenu. Or, une des revendications phares des Gilets jaunes, c'est l'augmentation du SMIC. Ça ne vous a pas échappé.
Oui, mais
et vous êtes contre. Non, comment est-ce que ça vous met pas en porte-à-faux d'être contre la revendication des Gilets jaunes ? tout en prétendant le soutenir depuis le début.
Madame, quand les Gilets jaunes réclament l'augmentation du SMIC, ils réclament l'augmentation de leur salaire des gens qui gagnent le SMIC. Il y a d'autres moyens que l'augmentation du SMIC qui pèsent sur les entreprises, et notamment sur les TPE-PME auxquelles je suis extrêmement attentive, pour obtenir une augmentation du salaire.
Bon. Donc notamment, vous êtes contre l'augmentation
notamment
du SMIC
la prime,
parce que vous pensez que ça va détruire des emplois, comme le disent les économistes.
Notamment, madame, la prime de pouvoir d'achat, qui était dans mon projet présidentiel, qui était une prime de pouvoir d'achat de 80 € par mois, par la prise en charge de la part salariale des cotisations sociales. Voilà, ça permettait de ne pas mettre un poids supplémentaire sur les TPE-PME, pas les grandes entreprises, elles ont les moyens, hein, mais sur les TPE-PME, et en même temps d'augmenter le salaire net. Bon, c'est un petit peu ce qui est mis en œuvre, même si on s'aperçoit qu'en réalité, en passant par la prime d'activité, il n'y a probablement que 50% des gens qui aujourd'hui touchent le SMIC qui vont pouvoir bénéficier de cette prime d'activité, parce que il y a toujours 2000 cases qu'il faut cocher, et qu'en France, on coche jamais toutes les cases pour pouvoir bénéficier des mesures qui sont mises en œuvre. Bah, c'est très compliqué, en tout cas. La preuve, c'est qu'au départ, on nous a dit tous les salariés vont la toucher, puis après c'était 25%, et puis après c'était à nouveau tous les salariés, et puis maintenant on s'aperçoit que c'est 50%. Bon, donc c'est compliqué, quoi.
Vous participerez au débat national que lance le gouvernement?
Bah, ça dépend la manière dont il est organisé, parce que pour l'instant, j'ai le sentiment que même Mme Joanneau, qui a été conseillée par M. Sarkozy pour organiser ce débat...
Que finalement, elle a presque été nommée directement par Nicolas Sarkozy?
Non, je dis que c'est Nicolas Sarkozy...
Via Emmanuel Macron?
Je dis que c'est Nicolas Sarkozy qui a suggéré à Emmanuel Macron le nom de Mme Joanneau pour organiser ce débat, oui. Vous savez, les relations entre M. Sarkozy et M. Macron sont très proches. D'ailleurs, M. Sarkozy est quasiment Macron compatible. Il l'a dit lui-même, hein. Il n'a pas tari d'éloge sur le président de la République. Il a même dit « c'est moi en mieux ». Moi, je trouve que Macron, c'est Sarko en pire. Mais enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais oui, il y a quand même une communauté de vues entre les deux. Alors, donc la manière dont ce débat va être organisé m'inquiète. Pourquoi? Voilà. Parce que je pense...
Les maires sont mis au premier plan. Les maires RN, par exemple,
maires, ils ont pas envie.
Prêts à participer,
organiser. Oui, mais il y a beaucoup de maires qui n'ont pas envie d'être au premier rang.
Vos maires à vous, entre guillemets, les maires de votre parti vont le faire ou pas?
Bien sûr, ils le feront s'il n'y a pas d'autre solution. Mais moi, je crois que c'est les sous-préfectures qui auraient dû organiser ce grand débat national. Parce qu'elles sont un gage de neutralité. Or, une nouvelle fois, on se décharge sur les maires pour organiser un débat où le gouvernement va être mis en accusation, ce qui est à peu près sûr. En plus, en limitant le débat. Un débat en disant on fait un débat mais on parlera pas de l'immigration.
Si, on en parlera dans un chapitre, excusez-moi d'être précise, il l'avait annoncé, Emmanuel Macron, ça a été rajouté à un des quatre chapitres.
Donc il l'avait annoncé.
Transition écologique, fiscalité, organisation de l'État, démocratie et citoyenneté, le thème de l'immigration figurera dans ce quatrième chapitre.
Donc il l'avait annoncé. Le Premier ministre a dit qu'il n'y serait pas, puis en réalité, il est revenu. Soit après avoir signé le pacte de Marrakech sans demander l'avis des Français, sans qu'il y ait un débat à l'Assemblée, c'est-à-dire un véritable scandale.
Donc,
oui, non, mais vous répétez ça. Mais
répète la réalité.
Non, mais vous répétez
c'est
ça.
La réalité, c'est
mais alors
la
pourquoi,
vérité.
Alors pourquoi le signer?
Il n'a pas été signé.
Et pourquoi
en tant
surtout
que tel, il n'y a pas de vote engage.
Alors
et
pourquoi
qui contraint les pays.
Alors,
et vous le savez très
alors,
bien.
Alors pourquoi les États-Unis ne l'ont pas signé? Pourquoi Israël ne l'a pas signé? Pourquoi ça a fait tomber le gouvernement belge? Le gouvernement belge est tombé hier soir à cause du pacte de Marrakech. Pourquoi tout cela s'il n'est pas contraignant? Vous voyez bien que, évidemment, on est là dans ce qu'on appelle la soft law. Vous savez, la devise liberté, égalité, fraternité, elle n'est pas contraignante non plus. Et pourtant, il y a des juges qui ont intégré dans le droit ce principe de fraternité, notamment pour permettre à
États.
M. Héroux d'aider l'immigration
Monsieur
clandestine.
M. Héroux, on précise, hein, c'est la personne qui avait
C'est des militants d'extrême gauche qui aident les clandestins à rester ou à arriver sur le territoire national.
Bon. Marine Le Pen,
ce qui veut dire, madame, que je vous donne, moi, encore une fois, quelques semaines pour qu'un avocat ou un juge se serve de ce pacte de Marrakech pour en demander l'application dans notre droit. C'est évidemment très grave, mais nous aurons plus jamais l'occasion d'en parler, puisque je crois que ce sera voté aujourd'hui, sans qu'encore une fois aucun débat n'ait été organisé auprès des Français.
Par les Nations Unies.
Ah oui.
Il y a des débats internes au pays qui font qu'effectivement le thème de l'immigration peut aboutir à la démission d'un Premier ministre. Il y a des États-Unis qui, pour des raisons personnelles, ou en tout cas pour des raisons décision, décident de ne pas le
Et la moitié
signer.
Des pays d'Europe quand même.
Mais malgré tout, la réalité c'est que ce pacte réaffirme la souveraineté des États en matière de politique
migratoire. Vous savez ce qu'il dit aussi, madame, ce pacte, mais je pense que vous, à mon avis, vous l'avez avez lu, en effet, puisqu'il dit qu'il faut éduquer les médias à exprimer que l'immigration est un bienfait. Donc voilà, donc on va vous éduquer, vous allez partir en camp de rééducation si jamais vous mettez en cause le fait que l'immigration est un bienfait. Moi, je trouve que les journalistes que vous êtes devraient se scandaliser de l'existence dans ce pacte d'une consigne qui va directement à l'encontre de la liberté d'expression. Mais ça n'a pas l'air de vous déranger.
Non, mais juste, on parlait des maires et on est arrivé au pacte de Marrakech. Est-ce que ça n'est pas le bon niveau de débat national, les maires ayant beaucoup souffert quand même d'être sous-traités par le gouvernement depuis 18 mois, là on leur donne un rôle de premier plan, est-ce que ça n'est pas une bonne nouvelle? C'est un mandat que les Français apprécient beaucoup.
Mais madame, les maires, ils veulent plus de pouvoir, ils veulent pas être les organisateurs des débats dont ils craignent pour beaucoup qu'ils soient manipulés par La République En Marche ou le gouvernement. Ils veulent plus de pouvoir. Or, on leur a retiré le pouvoir.
On leur donne le pouvoir.
On les a transformés en fonctionnaires d'état civil. Ouais. Donc, ils font les mariages, ils inscrivent les naissances, et puis c'est tout. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Tous les pouvoirs ont été transférés aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes. Et les Français veulent que leur maire ait plus de pouvoir parce que c'est effectivement la démocratie de proximité. Vous savez, l'attachement que j'ai, moi, à la proximité, à l'économie de proximité, à la démocratie de proximité. Donc, je pense qu'il faut intégralement revoir les décisions qui ont été prises, et notamment la loi NOTRe, qui a vidé le mandat de maire de l'intégralité de son pouvoir
Marine
de décision.
Le Pen, est-ce que... deux questions très vite, parce qu'il reste quelques minutes. D'abord, un petit mot, une petite parenthèse sur les thèses complotistes qui ont fleuri après l'attentat de Strasbourg, relayées par des gilets jaunes qui se présentaient comme des porte-parole. Ils estimaient que... Enfin, ils relayaient le fait que le président, le pouvoir... aurait pu fomenter cet attentat. Qu'est-ce que
madame,
vous leur dites,
madame, aussi loin que le
qu'est-ce que vous dites à ces gilets jaunes après le complotisme,
loin, aussi loin de l'histoire de France, il y a toujours eu des théories du complot. Il y en a même qui existent dans les rédactions.
Elles sont portées
journalistes,
par les porte-parole du gilet jaune.
Oui, oui, c'est vrai, mais il y a aussi des journalistes qui nous expliquent que c'est la Russie qui est derrière les gilets jaunes.
Mais est-ce que vous regrettez
cette
thèse-là?
Steve Bannon, vous voyez.
Attendez,
donc, bon. Donc moi, je m'oppose à l'intégralité des thèses complotistes, évidemment, qu'elles sortent des rédactions ou qu'elles soient diffusées sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas, évidemment, de complot derrière tout cela. Il y a une menace absolument terrifiante, une menace terroriste contre laquelle, objectivement, rien n'est fait.
Est-ce que Marine Le Pen, vous aurez des gilets jaunes sur votre liste européenne?
Mais j'ai déjà des gilets jaunes, qu'est-ce que vous croyez?
Est-ce que vous avez des gilets jaunes, des militants qui jusque-là n'étaient pas adhérents au RN, n'ont jamais participé d'ailleurs à aucun parti, et qui viennent aujourd'hui et vous aimeriez intégrer sur vos listes? Après, vous...
Madame, moi je suis pas dans une démarche de récupération. Je ne suis pas dans une démarche électoraliste. Voilà. Je note que j'ai parlé de cette France des oubliés depuis des années et des années. Vous le savez pour m'avoir invité et interrogé à de nombreuses reprises sur eux. Que l'intégralité des revendications qui sont exprimées était intégrée dans le projet présidentiel qui était le mien. Que je crois que nous sommes le mouvement qui est le plus proche des préoccupations des Français.
Ce serait gênant qu'il lance une liste ou pas? Est-ce que ce serait gênant qu'il se constitue aux européennes? Il y a deux sondages qui montrent que ça vous ferait perdre 10 à 12 points pour finir.
Oui.
Vous avez peur de ça ou pas?
Je n'ai absolument pas peur de la démocratie. Voilà. En revanche, c'est sûr que les quelques gilets jaunes qui s'accrochent à Monsieur Tapie pour faire une liste aux européennes, c'est un peu la dinde qui vote pour Noël, quoi. Parce que, excusez-moi, mais dans genre patron voyou, il se pose là, quoi.
Marine Le Pen sur RTL ce matin.
Emmanuel Macron aura le plus grand mal à mettre en place le programme antisocial pour lequel il a été élu avec l'appui de l'Union Européenne, vient de nous dire Marine Le Pen. La météo dans un instant, pluvieuse de Louis Baudin. Et bien entendu, vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rtl.fr.
Dans 3 minutes, 8 heures.